commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur les plus récents développements de la situation en Ukraine, ou plus exactement, les petites phrases du président de la République suivies par les menaces de Vladimir Poutine. Donc nous allons essayer de suivre ce feuilleton avec Dominique Moïsi. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Merci à Dominique Moïsi d'être avec nous, conseiller spécial de la Fondation de l'Institut Montaigne, pardon, et qui publie ces jours-ci un livre intitulé « Le triomphe des émotions » publié chez Robert Laffont et qui est un panorama général de tous les grands enjeux géopolitiques d'aujourd'hui. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Donc on va essayer de ponctuer cette semaine qui a commencé par une petite phrase d'Emmanuel Macron évoquant ou disant qu'il ne pouvait rien exclure s'agissant de la présence éventuelle de troupes européennes en Ukraine, au sol en Ukraine, qui a provoqué à la fois une sorte d'isolement d'Emmanuel Macron sur la scène européenne d'une part, et puis d'autre part une réponse de Vladimir Poutine, réponse en forme de menace qui évoque à nouveau le risque d'une guerre nucléaire avec l'Occident. Ça n'est pas la première fois que Vladimir Poutine manie, si j'ose dire, cette arme-là. Le président de la République, de son côté, avait évoqué ce qu'il appelle une ambiguïté stratégique. Alors nous allons revenir peut-être un petit peu sur tout cela. Au point de départ, peut-être avec vous, Dominique Moïsi, comment regardez-vous cette séquence ? Bien commencé par Emmanuel Macron, puisqu'il réunit autour de lui de façon extrêmement rapide l'ensemble des Européens pour manifester le soutien des Européens à l'Ukraine. Et puis, cette petite phrase qui renverse un petit peu les choses, c'est-à-dire qui provoque une sorte d'isolement d'Emmanuel Macron. Et puis la réponse attendue, j'allais dire presque, je vais pas dire pavlovienne, mais presque de Vladimir Poutine, Dominique Moïsi.
Je crois qu'il faut distinguer le fond et la forme. Sur le fond, la formule du président de la République ne me choque pas. C'est un scénario qui doit être envisagé et qui s'inscrit dans la logique de notre engagement aux côtés de l'Ukraine. On ne peut pas tout à la fois dire... une victoire de Poutine est impossible parce que la défaite de l'Ukraine serait notre défaite et ne pas envisager tout ce qui peut et doit être fait pour empêcher cette évolution. Alors, sur la forme, me revient spontanément la célèbre formule qu'aimait citer François Mitterrand, le cardinal de Retz, écrivant dans ses mémoires, « On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens ». Et l'idée de créer de l'ambiguïté stratégique, ce qui est mentionné un peu comme une excuse par les conseillers du président de la République, me trouble un peu. Le silence est beaucoup plus fort pour créer de l'ambiguïté. Je crois qu'il y a ce qui se pense et il y a ce qui se dit. Et la manière dont le président de la République a dit, a tenu ses propos, a joué contre lui. C'est-à-dire qu'il s'est isolé de ses alliés dans le monde occidental et il a renforcé ses adversaires en France, fournissant des armes à tous ceux qui peuvent dire « mais on ne veut pas mourir pour le Donbass, on ne veut pas mourir pour Kiev, etc. » Donc je crois que une idée juste, utilisée de manière un peu imprudente, s'est retournée contre le président de la République. Et je crois qu'il y a un point très fort qui a été relevé par nos amis alliés et irrités. C'est la France parle haut et fort après avoir parlé trop longtemps dans la direction inverse. Il ne faut pas humilier la Russie, disait Emmanuel Macron longtemps après que la Russie n'ait envahi l'Ukraine. Et aujourd'hui, elle se place dans la position exactement inverse. Et on nous fait remarquer que l'Allemagne, qui a réagi si vivement, contribue deux fois plus à l'effort de défense ukrainien, au minimum, que ne le fait la France. Donc ce qui renforce la dissuasion, ce ne sont pas les propos du président de la République, ce sont les livraisons en quantité et dans des délais acceptables d'armes aux Ukrainiens. Ce n'est pas ce que nous... Poutine ne va pas être dissuadé par ce que nous disons, mais ce que nous faisons est beaucoup plus important. Il n'est pas normal que les Ukrainiens manquent de munitions. C'est ça, me semble-t-il, la clé de la dissuasion par rapport à la Russie. Et ce ne sont pas les propos sur l'ambiguïté stratégique.
Jean-Claude Casanova.
Oui, on peut reprocher au président de s'être mal exprimé, mais il faut ajouter immédiatement que sont également responsables ceux qui ont mal compris ou qui ont fait semblant de mal comprendre. Parce que il n'a jamais dit qu'il fallait envoyer des troupes au sol. Il n'a jamais dit qu'il fallait envoyer maintenant des régiments d'infanterie. Il parle de la dynamique, de l'avenir, et il dit c'est une... je crée une ambiguïté stratégique, et donc ça se comprend, c'est ce qu'on fait toujours d'une certaine façon. Alors, il aurait dû se concerter, etc. Mais quand on reproche à la France d'avoir trop fait vis-à-vis de Poutine avant, qu'est-ce qu'on doit dire des Allemands qui ont imposé à l'Europe l'approvisionnement par un canal supplémentaire, c'est-à-dire qui ont soutenu la politique de Poutine malgré les pressions américaines sur eux pour leur dire que c'était tout à fait imprudent et en disant hypocritement qu'ils rendaient service à l'Ukraine en créant un deuxième système de versement au nord, un deuxième système de versement du gaz. Et puis les Allemands, l'Institut de Kiel fournit des statistiques, mais on peut faire dire n'importe quoi aux statistiques en additionnant. On peut additionner des armes et des financements, mais les Allemands refusent de mettre, ce qui est important stratégiquement, les missiles à longue portée, que donnent les Anglais et que donnent les Français. Et il y a même quelque chose d'extrêmement déplaisant chez les Allemands, c'est que implicitement, le chancelier allemand a dit... Ce que l'on sait, c'est que pour les fusées françaises et pour les fusées anglaises, il y a bien évidemment des gens, des forces spéciales qui sont sur place. Et il a dit, nous, les Taurus, nous ne pouvons pas les mettre parce que nous ne pouvons pas envoyer des troupes. Certainement, l'armée allemande doit avoir des règlements, elle a des syndicats, et elle a des règlements qui l'empêchent de se battre. On l'a vu en Afghanistan. Mais d'une certaine façon, je comprends l'agacement du président de la République à l'égard de l'Allemagne, qui a tendance à faire de la moralité kantienne au moment où on demande des actes et qui avance des statistiques. Le problème, c'est d'envoyer des armes efficaces, pas de faire des statistiques financières. Et ceux qui sont le grand coupable aujourd'hui, c'est le Parti républicain aux États-Unis qui délibérément... honteusement, délibérément et honteusement, aux ordres de Trump, bloque l'aide américaine qui permettrait d'augmenter la quantité d'obus, etc. En ce qui concerne les obus, l'industrie française n'a pas la capacité de les produire. Nous n'avons pas la poudre. Toute l'organisation de défense française était fondée pour les interventions en Afrique. Nous n'avions pas une armée et un stock militaire et un stock d'armement correspondant au type de conflit qui apparaît. Et je crois que c'est très injuste la campagne qui est faite actuellement à ce point de vue-là contre le président de la République.
Alors, Dominique Moïsi, il y a donc un agacement certain de Jean-Claude Casanova vis-à-vis du chancelier Scholz. Est-ce que vous partagez cette vision? Parce que c'est vrai certains journaux allemands parlent même de glaciation entre Paris et Berlin, ce qui est quand même, ce qui arrive rarement.
Oui. Ce qui est fâcheux dans cette affaire, c'est que des propos délibérément ambigus qui visaient à renforcer la dissuasion du camp occidental par rapport à la Russie de Poutine ont un résultat exactement inverse. C'est-à-dire que c'est un révélateur de nos divisions, ou plutôt de nos incertitudes très grandes. Président Macron a poussé ses alliés à dire « mais nous ne voulons pas envoyer de troupes sur le terrain. Des armes et des munitions, oui, des hommes, non. » Et d'une certaine manière, ces propos lancés d'une façon délibérément provocatrice et un peu légère, contribuent, me semble-t-il, plus à affaiblir le camp occidental par rapport à Moscou qu'à le renforcer. Car, et on va en parler, Poutine peut faire des menaces, brandir encore plus facilement la menace du nucléaire, en se disant, mais non seulement ils ont peur, mais en réalité ils ne veulent pas y aller en Ukraine. Et donc le président de la République m'a donné des armes psychologiques pour battre, entre guillemets, les Occidentaux. Alors, tout ça est vrai. Il est vrai, se situe dans un contexte qui est totalement dominé par la perspective des élections présidentielles américaines de novembre 2024. Et il y a cette idée juste du président de la République qu'à un moment donné, l'Europe devra devenir son assurance-vie ultime. Alors que depuis plus de 70 ans, l'assurance-vie ultime des Européens se trouvait de l'autre côté de l'Atlantique. Et dans son esprit, il prépare les Européens à ce moment. Mais il le fait, me semble-t-il, encore une fois, d'une manière un peu légère sur la forme, qui s'est retournée contre lui.
Jean-Claude Casanova.
Oui, pour revenir sur l'Allemagne, l'Allemagne n'est pas unie dans cette affaire. Le chancelier est critiqué par une partie de sa majorité, les libéraux, qui veulent envoyer des Taurus, c'est-à-dire des fusées à longue portée, et les chrétiens démocrates. La situation allemande, à ce point de vue-là, de la coalition, n'est pas claire. Et d'autre part, il y a chez les Allemands une espèce de panique à l'idée du retrait américain qui les paralyse, et ils vivent. On peut reprocher à Macron ses maladresses. Il est moins grave d'avoir des maladresses que d'avoir des visions fausses. La vision fausse qui a commencé en Allemagne par la suppression du nucléaire civil, les rendant disponibles et dépendants de la Russie, et qui se poursuit par l'idée qu'ils ne peuvent vivre qu'avec une protection américaine. Si la protection américaine se retrouve, il faudra bien que l'Allemagne fasse des efforts.
Ça, je vous trouve Jean-Claude un tout petit peu sévère à l'égard de l'Allemagne, parce que il y a eu une vraie révolution qui est intervenue dans la politique de défense allemande depuis le début de la guerre en Ukraine. Elle remplit maintenant ou presque ses obligations par rapport à l'OTAN. Elle a doublé son budget de défense. On ne peut pas dire qu'elle est restée passive et indifférente. Et je rajouterais...
Mais sur les Taurus...
Sur les Taurus, c'est, oui, tout bon, à fait, c'est tout à fait regrettable.
Ce sont les armes qui marchent.
C'est tout à fait regrettable. Mais ils ont quand même envoyé des chars qui fonctionnent.
Oui,
donc je crois qu'on peut pas, on peut pas aller trop loin dans cette direction. Et alors, juste un point qui me paraît intéressant pour nous, Français, c'est l'attitude des Verts allemands qui est infiniment plus responsable et plus rationnelle que celle des Verts français et qui ont, à l'égard de la guerre en Ukraine, des propos qui me paraissent tout à fait dignes. Ils sont engagés aux côtés de l'Ukraine.
On va en venir à Vladimir Poutine, parce que sa menace nucléaire en réponse donc à Emmanuel Macron, en fait, il l'a brandi déjà depuis un certain temps. Il l'avait fait d'ailleurs il y a déjà 2 ans. Et au fond, en s'érigeant lui-même, c'est celui qui dit, au fond, quand est-ce qu'on est co-belligérant, quand est-ce qu'on ne l'est pas. Il s'arroge ce privilège et ce droit. Il a donc invoqué cela, et ça n'a pas empêché l'effort occidental en faveur de l'Ukraine d'augmenter à chaque fois. Et à chaque fois, il brandit cette menace, mais à chaque fois, l'aide de facto augmente. Donc, il y a aussi de la part de Vladimir Poutine une part, j'allais dire, de contre-dissuasion qui pèse peut-être davantage sur nos opinions, enfin les opinions publiques en Europe, que dans la réalité de ce qu'ils envisagent de faire ou de ce que Poutine envisagerait de faire. Parce que ce qu'il envisage de faire, on le voit à nouveau sous nos yeux, c'est la méthode classique qu'il a utilisée pour le Donbass, qu'il est en train d'utiliser maintenant aux dépens de la Moldavie, avec la Transnistrie qui, tout d'un coup, 400 000 habitants de cette petite bande de terrain qui sépare la Moldavie de l'Ukraine, tout d'un coup, appelle au secours l'armée russe, comme les sécessionnistes du Donbass avaient appelé au secours l'armée russe. Donc ça veut dire je continue. Et je continue sur le terrain qui m'intéresse, pardon, c'est-à-dire le terrain territorial. Donc celles et ceux qui craignent en effet que une défaite de l'Ukraine n'incite encore davantage Poutine à continuer sont sans doute dans le vrai, Dominique Moïsi.
Tout à fait. Je crois que pour comprendre la pensée de Poutine aujourd'hui, il faut sans doute faire référence à des comparaisons historiques. Dans son esprit, la Russie en 2024 est dans la situation où se trouvait la Russie à la fin de l'année 42. L'échec de l'Allemagne nazie devant Stalingrad convainc Staline que le temps joue en sa faveur, que ça y est, c'est résolu. Et Poutine se sent un peu dans cette situation, alors que nous essayons de mettre en avant une idée tout autre, qui consiste à dire, en réalité, nous sommes à la fin de l'été 1916. Les fronts sont globalement gelés, il n'y a pas d'avancée décisive. Ce qui va faire la différence, c'est l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des démocraties. Ce qui risque de faire la différence, c'est le retrait de l'Amérique en 2025 si Trump est élu. Et je crois que...
La révolution russe est une victoire allemande.
Oui, mais qui ne compense pas l'entrée en guerre des États-Unis.
Oui, bien sûr, heureusement.
C'est ça qui est fondamental. Et alors, je crois que c'est important de resituer ça pour comprendre l'utilisation régulière par Poutine de la menace de l'emploi de l'arme nucléaire. Le Wall Street Journal a publié il y a quelques jours un rapport montrant que, en réalité, ils envisageaient d'utiliser l'arme nucléaire tactique, que c'est dans leur plan, que ce n'est pas une abstraction. Alors, notre attitude à nous a été, je crois, responsable. Ne pas céder à la panique, ne pas céder au chantage, mais en même temps intégrer le fait que ça peut être utilisé. Et je pense bien évidemment à la réponse de Kennedy à Khrouchtchev au moment de la crise de Cuba et aux propos de la diplomatie américaine. Eh bien, nous mourrons ensemble. Mais c'est aussi les Américains, c'est De Gaulle après avec l'ambassadeur de l'URSS. Mais ça a déjà été utilisé par les Américains.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Dominique Moïsi, qui est conseiller spécial de l'Institut Montaigne, auteur d'un livre intitulé « Le triomphe des émotions », qui est un grand panorama des enjeux géopolitiques et géostratégiques d'aujourd'hui. Nous parlions de la position de Vladimir Poutine. Si l'on revient ici, en France, il y a quand même quelque chose qui est frappant, me semble-t-il, c'est la permanence des réflexes pro-russes. parce que au fond la séquence que l'on vient de vivre a révélé à nouveau sur la scène intérieure, donc on a dit ça a conduit sur la scène extérieure un peu à l'isolement d'Emmanuel Macron, mais sur la scène intérieure ça joue comme un révélateur à nouveau de l'enracinement de positions qui consistent toujours à ménager la Russie et à donc à ne pas voir ce que fait Poutine concrètement et en quoi Poutine nous menace autant que les Polonais se sentent menacés, autant que les Pays-Baltes se sentent menacés, alors que il y a tout un secteur de l'opinion qui pense que au contraire il faut et dès maintenant d'ailleurs il faudrait négocier avec Vladimir Poutine. Dominique Moïsi.
Oui, je crois que au lendemain de l'assassinat, il n'y a pas d'autre terme à utiliser, de Navalny. Au lendemain immédiat de ses funérailles à Moscou, tous ceux qui refusent de voir la nature profonde du régime russe ne sont pas seulement aveugles, ils sont coupables. Et il faut se demander pourquoi. On est à la veille d'élections européennes importantes, il y aura des partis politiques qui diront il faut absolument trouver le plus vite possible un accord avec la Russie, nous ne devons pas succomber à l'appel des faucons, etc. C'est aujourd'hui un propos totalement inacceptable. Et il me semble essentiel de mettre en avant non seulement des valeurs, mais la réalité. Si on n'arrête pas Poutine maintenant, il ira plus loin. Et on aura eu, pour reprendre la célèbre formule de Churchill, le déshonneur d'abord et la guerre ensuite. On a fait, il y a quelques instants, des comparaisons avec la Première Guerre mondiale et un peu avec la Seconde. Mais aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'être en 38-39. Et la comparaison entre le comportement de Poutine et celui d'Hitler, quelles que soient les différences majeures qui peuvent exister entre les deux personnages, s'impose progressivement de plus en plus.
Jean-Claude Casanova.
Il se peut, c'est toujours difficile à interpréter, il se peut d'ailleurs qu'il y ait eu chez le président de la République une volonté de créer par son propos plus de clarté dans les positions politiques françaises. Et d'ailleurs, les réactions très vives à l'extrême droite et à l'extrême gauche ont révélé...
Pas seulement à l'extrême droite, à droite aussi.
À l'extrême gauche, oui, des deux côtés, oui. Absolument.
Et à droite aussi.
Ça a même réveillé Chevènement, je crois.
Mais je pense à Éric Ciotti, qui n'est pas de l'extrême droite, et qui est sur les positions du Front National.
Oui, non, mais l'arc pro-russe, disons, pour parler brutalement, et de façon un peu simplificatrice, l'arc pro-russe s'est réveillé par la vigueur de sa protestation contre le propos de Macron. Et je redoute qu'ils obtiennent que le parti pro-russe, disons, en additionnant ceux à droite, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, sont pour l'apaisement, comme on disait avant la guerre de 40, pour l'apaisement, n'est un score important et n'est pas mauvais que la campagne électorale française, la campagne électorale pour les élections européennes, prenne conscience de l'enjeu russe, tout à fait.
Alors avant de terminer, Dominique Moïsi, quelques mots sur ce livre que vous éditez, que vous publiez ces jours-ci, qui s'appelle « Le triomphe des émotions », donc qui englobe un peu toutes les questions, qui suit d'ailleurs un ouvrage précédent d'il y a une quinzaine d'années, qui a comporté aussi le mot « émotion ».
La géopolitique de l'émotion.
Voilà. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement, de quoi donner envie de vous lire?
Non, je... Il y a 15 ans, j'avais l'intuition, à la suite de Pierre Asner et de Stanley Hoffman, que l'affectif jouait un rôle considérable dans la compréhension des relations internationales. Et l'histoire m'a donné raison. Et 15 ans après, je revisite, chaussé des mêmes lunettes, la planète, et j'arrive à la conclusion double que les émotions sont encore plus importantes aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 15 ans, à l'heure de la guerre en Ukraine et de la guerre de Gaza et des élections américaines qui approchent, ça paraît évident. Et deuxièmement, et c'est plus grave, que les émotions négatives l'emportent sur les émotions positives. Je regarde les émotions comme le cholestérol. Il y a du bon cholestérol et du mauvais cholestérol. Il y a des bonnes émotions et des mauvaises émotions. Et hélas, les mauvaises émotions tendent à l'emporter sur les meilleures.
Alors nous lirons donc prochainement. Oui, Jean-Claude Casanova.
Le propos de Dominique est tout à fait juste, je trouve, historiquement, nous ramène à notre point de départ, parce que si la réaction de l'opinion au propos de Macron avait été une réaction non émotionnelle, elle aurait été bien meilleure. Au fond, l'erreur de Macron était d'avoir sous-estimé l'émotion.
Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où on transforme ce qu'a dit Emmanuel Macron, on envoie tout de suite ici, bien maintenant, un régiment d'infanterie sur place, évidemment.
Mais l'émotion l'a
emporté. Mais il était inévitable qu'elle l'emportât. Oui, et donc, c'est là où est l'erreur du président de la République.
Merci beaucoup, en tout cas, Dominique Moïsi, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Le Triomphe des émotions, chez Robert Laffont. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.